Avoir raison avec Robespierre. Avoir raison avec Robespierre, cette phrase, il faut pouvoir la prononcer. L'historien Marc Bloch nous avait mis en garde dans son ouvrage posthume Apologie pour l'histoire, Robespierriste, anti-Robespierriste, nous vous crions grâce par pitié, dites-nous simplement quel fut Robespierre. 80 ans après l'écriture de ce texte, cette saine exhortation n'est toujours pas d'actualité, car même si les braises du bicentenaire sont aujourd'hui moins vives qu'en 1989, la personne Robespierre reste un enjeu. Un enjeu et une clé, voire un passe-partout qui, pour peu qu'on le fabrique soi-même, permettrait à chacun de s'y retrouver dans le fatras de la Grande Révolution, de classer les révolutionnaires entre eux, de savoir ce qu'est le bon et le mauvais peuple, de réfléchir à l'exigence de la politique, à la vertu et au trop-plein de la vertu, à la terreur qui foudroie aussi bien vos amis que vos ennemis. Robespierre, qui malgré la multiplication des lectures successives de ses discours et de ses lettres, reste encore l'insondable trou noir de la Révolution, où tout, de la morale à la raison, sombrerait par l'excès. Aujourd'hui, Robespierre, incarnation du monstre.
Chaque jour, le monde nous regarde. Nous ne devons surtout pas faire preuve de faiblesse ni de lâcheté morale. Car qu'est-ce que deviendrait la France si nous n'avions plus la confiance des Français? J'aurais à mes côtés des hommes droits et justes. Car l'innocence, vertu primordiale, ne doit ni ne peut redouter la surveillance publique.
Oui, tu as raison, bravo Robespierre!
Qui appuie la proposition de Robespierre? Qui est contre?
Moi, je suis contre.
Êtes-vous devenu fou? Si dans ton tombe, nous sommes foutus!
Imbécile, vous avez vous-même droit au massacre!
Tenir de pareils propos, c'est déjà se montrer coupable à mes yeux.
Qu'est-ce que tu dis?
Après délibération, la Convention a confirmé sa pleine confiance au comité. Seuls ceux qui sont coupables tremblent.
Le poids de ce crime t'écrasera, Robespierre!
Un extrait du Danton de Andrzej Wajda, donc une des nombreuses façons de montrer Robespierre au cinéma. Nous sommes en votre compagnie, Jean-Clément Martin, bonjour.
Bonjour Emmanuel Laurentin.
Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez dirigé l'Institut d'Histoire de la Révolution française. Vous avez écrit de nombreux livres sur l'histoire de la Révolution, dont un qui s'intitule Robespierre, la fabrication d'un monstre chez Perrin. C'était en 2016. Avec ce livre, d'une certaine manière, vous vous attaquiez à la fois à la réalité du personnage Robespierre, mais aussi à sa représentation posthume. Ce film de Wajda est effectivement une des représentations posthumes de Robespierre, celui qui brûle la Révolution et qui est brûlé par elle d'une certaine manière.
Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Et je trouve que, en quelque sorte, tout est déjà là, tout est déjà posé, parce que il y a cette opposition entre deux monstres et, en définitive, tout le monde s'attend à comprendre que Danton est un homme, un vrai, quelqu'un de tout à fait ordinaire, et que Robespierre en face, qui est compliqué, qui est refermé sur lui-même, est ce monstre qui va évidemment diriger la terreur. Et moi, je dirais que nous sommes prisonniers de quelque chose qu'il faut tout simplement détricoter, mais qui est d'une simplicité absolue. C'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Commencer tout simplement par dire que Robespierre a été traité de monstre quelques jours après son exécution, et que tous les autres révolutionnaires, mais je pense à Marat, je pense à Danton, je pense à Mirabeau, ont été eux aussi considérés comme des monstres. Mais il y en a qu'un qui soit rentré dans la légende. Et c'est ça le problème. Et c'est tout ce qu'il faut comprendre. Une fois qu'on est parti sur cette voie-là, eh bien, on comprend comment un homme normal, un révolutionnaire important, mais comme les autres, a été transformé en monstre dans, alors vous avez raison, dans sa vie posthume, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il a été transformé immédiatement après sa mort. Mmh. Et que les 6 mois qui ont couru après sa mort, donc en juillet 1794, ont créé une image que nous n'arrivons pas à décoller de l'homme.
Alors, je ne sais pas si c'est un hasard, mais votre livre, vous l'avez écrit et publié pendant qu'un président se disait normal, c'était donc sous François Hollande, mais néanmoins...
Je n'y avais pas pensé.
Mais néanmoins, vous essayez, dans ce livre, Robespierre, la fabrication d'un monstre, de rendre, justement, Robespierre normal. Est-ce que c'est possible de le faire, puisque ce que vous faites, c'est que vous le replacez dans ses groupes successifs,
oui.
Ses amitiés successives,
oui.
Ceux qui, à Arras d'abord, à Paris ensuite, ont suivi son aventure politique et l'ont accompagné.
Oui.
Et vous tentez de dire, bien, à chaque fois, vous dites, eh bien, cela, il n'est pas seul à le penser.
Absolument.
Ceci, il n'est pas le seul à le faire.
Tout
il n'est
fait.
Pas seul à imaginer la révolution dans son cours tel que d'autres
oui.
vont le faire en même temps que lui.
Exact.
D'une certaine manière, c'est votre volonté de le rendre totalement normal dans la Révolution alors qu'il a été exceptionnalisé.
Voilà, et vous avez parfaitement raison. Je pense qu'il y a deux réponses à faire. La première chose, c'est que tous ces hommes, il y a très peu de femmes, hein, il n'y a pas de femmes politiques à ce moment-là, donc tous ces hommes sont tous exceptionnels. Je pense qu'il faut commencer par ça. Quelqu'un comme Mirabeau, quelqu'un comme Barrère, que personne n'aime, mais qui a été un génie de la manipulation et de la création de l'opinion.
Et c'est lui qui a dit d'ailleurs, tout de suite après la mort de Robespierre, la France a supprimé le tyran et sort de la dictature.
Oui, ça c'est extraordinaire, parce que 8 jours avant, il le soutenait. C'est... Bon, mais en même temps, c'est aussi ordinaire. Bon, mais il y a quelqu'un dont on ne parle jamais, qui est l'âme damnée du Comité de Sûreté Générale, qui est Vadier, qui est sûrement un monstre du politique aussi. C'est inouï. Bon, et puis, on va pas continuer indéfiniment. Il y a quelqu'un qui va s'inspirer de Robespierre, qui, en quelque sorte, va réussir par un coup de génie à faire mieux que Robespierre. C'est Bonaparte, qui se réfère explicitement à Robespierre et qui a été régulièrement comparé à Robespierre. Donc, on est bien là, dans une époque où il y a ces individus qui sont absolument extraordinaires, au sens le plus fort du terme, bon, et qui vont disparaître les uns après les autres, parce qu'il y a toutes ces successions d'éliminations progressives, y compris... l'élimination de Danton. Danton a été comparé à un gros turbo qu'il fallait vider, enfin, une monstruosité. Et dans le film de Vajdin, on le voit encore. Or, ce qui est important à comprendre, c'est que dans toutes les éliminations, on a éliminé les Girondins, on a éliminé les Hébertistes, les Sans-Culottes, on a éliminé les Dantonistes, il y en a qu'un qui va avoir un sort véritablement particulier parce que on a besoin en quelque sorte de clôturer un épisode, c'est Robespierre et ses amis. Et là, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que Robespierre s'est inspiré pendant très longtemps de tous les gens qui l'entouraient et qu'une partie précisément de ceux qui lui ont donné des idées se sont trouvés en quelque sorte trahis. Dans le printemps 1794 et au début de l'été 1794, par Robespierre qui était en train de prendre un pouvoir extraordinaire. Ça, je pense qu'il faut bien le dire comme ça.
C'est la fête de l'être suprême en particulier.
C'est la fête de l'être suprême. Et puis, c'est la fête qui n'a pas eu lieu. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là. Comprendre que c'est ce qui ne s'est pas passé qui est important. Parce que Robespierre chute, comme on dit joliment, le 9 Thermidor. Parce que le 10 Thermidor, il devait y avoir l'entrée au Panthéon des cendres supposées du jeune Barat et du jeune Viala mythique.
Héros mythique de la Révolution.
Ah, absolument. Qui avait été créé par Barrère et Robespierre, la main dans la main. Bon. Et le problème est que si la fête avait lieu le 10 Thermidor, 28 juillet 1794, cela aurait voulu dire que Robespierre l'aurait présidé. Cela aurait voulu dire qu'il avait tous les pouvoirs autour de lui, parce que tous ses amis contrôlaient la garde nationale, tout Paris. Et que ses opposants, l'Italien, les Barras, les Fouché, qui craignaient pour leur tête, et à mon avis, à juste raison, se disaient qu'il fallait éviter cela, parce que eux allaient se retrouver en prison, le 10 Thermidor, juger le 11, guillotiner le 12.
Mais comment peut-on imaginer, Jean-Clément Martin, que ce personnage ait pu être représenté successivement comme un politicien habile qui gouvernait au centre, puisque ça a été longtemps l'image qu'il a eue, ensuite comme un tyran sanguinaire qui allait éliminer ses anciens amis comme ses ennemis, et que cela fasse un même personnage. C'est-à-dire, nous sommes dans une émission qui s'intitule « Avoir raison avec ». Comment peut-on avoir raison à la fois avec une image et avec l'autre image, ou est-ce qu'au bout du compte, ces images se sont brouillées tellement que, justement, Robespierre est, comme je le disais en ouverture de cette émission, le trou noir de la Révolution, d'une certaine manière, parce qu'il est insondable.
Écoutez, moi, je vais vous dire les choses d'une façon un peu bébête. Bon, si on ne comprend pas la règle du hors-jeu au football, on comprend pas Robespierre.
C'est-à-dire.
Et voilà. Quand les avants d'un camp vont vers le but, ils doivent, pour recevoir le ballon et pouvoir en jouer, être toujours devant les arrières adverses. Mmh. Sans cela, ils sont hors jeu. Ils ne peuvent pas jouer. Bon. Que font les arrières quand ils voient le ballon arriver? Ils avancent. Mmh. C'est bien que lorsque celui qui est trop avancé reçoit le ballon, il est hors jeu. Il ne peut plus rien faire. Et si moi j'ai toujours pensé qu'il fallait comprendre, c'est la seule règle du football que je connaisse, et je la trouve absolument d'une importance herméneutique pour parler de la Révolution. Ce qui s'est passé pendant, en quelque sorte, les années 1793-1794, c'est que Robespierre a joué avec tous les groupes politiques. Il est venu d'abord soutenu par les sans-culottes. Il a été accepté pour des raisons très compliquées, on rentrera pas sur la question, dans le comité de salut public, et il servait en quelque sorte de lien. À partir de décembre 1793, il se dissocie des sans-culottes qui sont guillotinés en mars. À partir de ce moment-là aussi, il va se dissocier de Danton et de ses amis et des gens corrompus, et ce qui se produit, c'est qu'à partir de juin, il prend une importance avec tout son groupe. Ce n'est pas un homme seul. Ça, c'est l'erreur absolue. Ce n'est pas un homme seul. Mais il prend une importance considérable qui fait craindre que son mysticisme politique, que sa pureté idéologique, que aussi son adresse à la Convention puisse le conduire effectivement à une épuration de tous ceux qui ont été mêlés aux violences, de tous ceux qui ont traficoté à droite et à gauche, et qu'il règle des comptes. Bon, et c'est ça qu'il faut comprendre en Thermidor, quand il est abandonné par les gens du centre, qui mènent une politique modérée, par les gens de l'extrême gauche qui se rendent compte qu'il est en train de se séparer d'eux, et puis par tous les corrompus qui craignent légitimement pour leur tête. Et puis, c'est le moment aussi, on peut le dire autrement, François Furet l'avait dit, et ça me semble quelque chose de très juste, c'est que les temps ont changé. La Révolution n'a plus besoin de cette mobilisation extrême, et que la voie que Robespierre est en train de vouloir emprunter, eh bien, tout le monde en a en quelque sorte un petit peu assez, sans compter que les sans-culottes ont perdu leur salaire élevé, qui sont déçus par la politique en quelque sorte religieuse de Robespierre, je mets religieuse avec des guillemets, et c'est cette conjonction-là qui fait que, bizarrement, devant la peur du 10 Thermidor, devant la peur de cette fête qui a été reculée à plusieurs reprises, il y a cette espèce de sursaut pour dire non, on arrête, on va pas recommencer la fête de l'être suprême où Robespierre avait galvanisé, on sait pas, 200 000, 300 000 personnes, bon, et mécontenté beaucoup d'autres. Hein. Donc, il y a là quelque chose qui se met en place, il est maladroit, et en quelque sorte, ce qu'il avait proposé est rejeté. Et comme il est légaliste, ça c'est fondamental, il est légaliste, il ne veut pas rentrer dans une insurrection pour éventuellement être tenu pour un contre-révolutionnaire, car il serait jugé immédiatement, il serait pas jugé, il serait immédiatement envoyé à la guillotine après l'enregistrement de son identité, c'est la loi. Donc, il ne peut pas risquer le faux pas, il va rester immobile toute la journée, et il va se résoudre seulement à la fin de lancer une insurrection, mais c'est trop tard, les autres qui sont tout aussi malhabiles le prennent, l'envoie à la guillotine le lendemain. Et de quoi parle-t-on? On parle d'un tyran, on parle d'un dictateur. Et c'est plusieurs jours après qu'on dira un monstre. Voilà.
Alors, justement, il y a aussi les caractères. Je sais que vous avez voulu, dans votre livre Robespierre, La fabrication d'un monstre, vous écarter de l'interprétation psychologisante du personnage de Robespierre, Jean-Clément Martin. Mais on insiste beaucoup à la fois sur sa vanité, sur son intelligence, sur son caractère fanatique, sur sa froideur. Tout un tas de qualificatifs, effectivement, psychologisants qui expliqueraient. Alors, qui expliquerait pourquoi, à la fin, il est devenu un monstre, mais qui n'expliquait pas pourquoi, au début, il a été adulé par une partie de la population de Paris pendant la Révolution française, à ses tout débuts. Donc, il y a quelque chose d'assez étrange dans cette description d'un personnage qui est à la fois froid, calculateur, parfois donc fanatique, et de l'autre côté, vaniteux, et qui, de l'autre côté, va néanmoins soulever les foules pendant un certain temps, jusqu'à être éliminé lui-même.
Ah oui, non, mais là, si vous me permettez, quand on arrive à ce sommet de pouvoir, est-ce qu'on peut être autrement que calculateur, vaniteux, froid et fanatique? Mais ils le sont tous quand même, que ça soit Carnot, que ça soit Billaud-Varenne, que ça soit Saint-Just, et puis j'en passe. Si on n'a pas ces qualités-là, on n'arrive pas à gouverner un pays en révolution, hein, soyons clairs. Bon, qu'il y ait eu aussi cet emballement autour de lui, mais Mirabeau était appelé la petite mère du peuple. Hébert était absolument adulé, Danton était le coq de tout Paris, avant que précisément tout le monde dise que ces gens-là n'avaient pas mérité et que l'opinion se retourne comme un gant contre eux. Ce qui s'est passé pour Robespierre s'est passé pour tout le monde. Et ce se passera après pour Vadier, pour Carnot, pour Barrère. Les ennuis de Carnot après 95 sont considérables. Donc non, mettons les choses à l'envers. Il a été comme tout le monde, et tout le monde aurait pu être appelé monstre. Marat avait été considéré comme un monstre aussi, ne serait-ce que par son accoutrement pendant très longtemps. Bon, ce qui est en revanche vraiment quelque chose d'important, c'est que au moment où il est éliminé, il y a cette rupture dans la vie politique, qui est impulsée par toute la Convention, qui a besoin de trouver quelqu'un qui va être responsable des, notamment des exécutions qui ont eu lieu dans l'été 1794. Et une partie de ces exécutions ont été provoquées par les ennemis de Robespierre. Je dis pas ça pour l'excuser. Je constate tout simplement que tout le monde le sait et que Robespierre lui-même s'en était rendu compte. Donc il faut trouver un bouc émissaire. Il faut trouver quelqu'un qui va porter le chapeau, si j'ose dire. Bon, et c'est comme ça que Barrère commence en disant c'est un dictateur, c'est un tyran, mais c'est surtout Tallien qui, en inventant la terreur un mois plus tard et en utilisant le goût pour les monstres de l'époque, parce que ça aussi on l'a oublié, c'est la découverte des monstres à ce moment-là, c'est cette fascination devant les êtres inhumains qui peuplent à l'époque toutes les imaginations.
Oui, c'est la naissance d'un romantisme qui va exploser ensuite dans le 19e siècle, bien évidemment.
Et déjà, depuis 4 ans, un Français a inventé un monstre qui s'appelle Frankenstein, que Marie Shelley reprendra pour elle-même dans 10 ans après. Donc, cette image du monstre fascine les individus, et là, évidemment, on peut l'appliquer à Robespierre, pour une raison simple aussi. Tout le monde va présenter Robespierre comme quelqu'un, les yeux chassieux, les grosses lunettes, c'est un puceau, ça va être répété régulièrement, il ne boit que du vin avec de l'eau, vraiment, c'est quelqu'un d'anormal. Comment expliquer qu'un petit bonhomme dont la voix ne porte pas ait pu galvaniser toute la France, et notamment c'est les sans-culottes et les armées en Vendée, sauf s'il est un monstre? Et là, tout se tient. L'image du monstre colle parfaitement à Robespierre, parce que quand on l'applique, tout le monde se dit « Ah oui, c'est monstrueux !» Et il m'a, lui aussi, séduit. J'ai été, en quelque sorte, dans l'obédience de Robespierre, à mon corps défendant. Et ça, c'est extraordinaire. Le monstre, c'est vraiment l'invention extraordinaire. Et tout le monde va en rajouter. Et on va raconter qu'il a inventé des canaux pour écouler le sang, le carénage industriel des peaux humaines, et ainsi de suite. On va même inventer qu'il était ami avec Carrier, ils se détestaient, ils voulaient se guillotiner l'un l'autre pour dépopuler la Vendée. Et c'est parti. Et nous vivons là-dessus.
Mais néanmoins, alors, on vous présente comme un défenseur de Robespierre, parce que justement, vous défaites l'image du monstre. Mais néanmoins, Jean-Clément Martin, comment expliquer que cette image que vous êtes en train de développer ici, c'est-à-dire d'un monstre qui aurait été créé par ses amis, une fois qu'il a été éliminé avec d'autres amis, eh bien, que cette idée-là soit contestée par d'autres historiens et historiennes, soit contestée généralement aussi par des hommes politiques qui réfléchissent à l'apport de la Révolution française, à l'histoire politique française. Qu'est-ce qui explique que votre explication ne séduise pas tout le monde ?
Ben parce que ça oblige à remettre les choses à plat, que ça oblige à dire que Robespierre n'était pas le seul grand penseur, que Robespierre n'était pas le seul grand politique en bien ou en mal, qu'il n'y avait pas un déroulement linéaire de la Révolution. Ce que je dis tout bêtement, c'est que Robespierre, homme comme les autres, qui... Si je le dis d'une façon un petit peu rapide, et certains m'en voudront encore, qui a piqué les idées à beaucoup de gens, hein, mécontentant ses amis devenus ses rivaux. Moi je dis tout simplement que la Révolution, c'est d'abord ce jeu continuel d'adaptation d'hommes politiques, je dis à nouveau extraordinaire, hein, avec une vie invraisemblable, à des circonstances absolument hallucinantes.
Alors, il faut, effectivement, on parle souvent effectivement de cette jeunesse, d'abord de beaucoup de ces révolutionnaires, de cette jeunesse.
Ils ont 30 ans, pas plus.
De cette fatigue de ces révolutionnaires qui, enfin, au bout de 4 ans de révolution, sont absolument exténués,
dorment tous.
Peu, et sont toujours en train de préparer ou de contrer un complot, d'une certaine manière. Donc, effectivement, ça, c'est l'ensemble de cette jeunesse révolutionnaire qui fait la Révolution française.
Bon, et puis qui en plus réussit à mobiliser la nation. Il faut quand même imaginer qu'il y a entre plus de 600 000 hommes sous les armes. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire ? Il y a une invention extraordinaire. Bon, et Robespierre a participé à cela avec les autres. Il a encadré tout ça, il a accompagné tout cela, il a changé d'opinion régulièrement. Ça aussi, je pense qu'il faut absolument le dire. On le voit évoluer. Et moi, je considère que c'est normal. Un homme politique qui vient avec des idées toutes faites et qui cherche à les appliquer, c'est un risque majeur et il échoue. Donc il faut s'adapter. Et là, seulement en été 1794, il n'arrive pas à maîtriser le renversement de l'opinion. Effectivement, une partie des Parisiens lui reproche notamment d'avoir baissé les salaires et d'avoir éliminé les sans-culottes. Et ça lui est énormément reproché. Et puis, il menace tous ceux qui sont en train de vouloir continuer leur petit trafic et surtout qui sont aussi des gens qui ne veulent pas accepter la liberté des cultes. Ça, c'est un point aussi essentiel. Robespierre, c'est quand même celui qui avait imposé la liberté des cultes, ce qu'on oublie très régulièrement.
Alors, il y a aussi ces analogies, pourrait-on dire, qui sont régulièrement faites et qui ont été régulièrement faites de la part d'Anna Arendt, mais de bien d'autres, de Claude Lefort ou d'autres, effectivement, avec la terreur stalinienne, par exemple, ou les monstres du XXe siècle. Est-ce que cela, justement, c'est possible de décoller l'un de l'autre ? C'est ce que vous tentez de faire dans La fabrication d'un monstre. Ce livre paru chez Perrin en 2016, Jean-Clément Martin, est-ce que c'est possible de se défaire et d'une certaine manière de s'attaquer à ces très grands penseurs de la philosophie politique qui, d'Anna Arendt, je l'ai dit, Claude Lefort ou d'autres comme François Furet, justement, ont tenté, au contraire, de dire qu'il y avait un lien entre ce Robespierre de la terreur et ces expériences terrifiantes du XXe siècle.
Deux réponses. La première réponse, c'est, je dirais, en toute modestie, ce qui m'importe, moi, c'est de travailler sur ce qui s'est passé à un moment donné et de confronter les faits à ce qu'on en pense. Et de ce point de vue-là, très franchement, pour moi, c'est ni Dieu ni maître. Il n'y a pas d'autorité là-dessus, ni de gauche, ni de droite, ni du centre, que je vais suivre par principe, ça ne m'intéresse pas. La deuxième chose, c'est que il est nécessaire de comprendre justement que il faut détricoter tous ces récits. C'est ça qui nous encombre l'esprit. Le totalitarisme, ce n'est pas Hitler, Staline ou Mussolini, c'est bien quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus organisé, avec des problèmes contextuels et des sociétés qui suivent. C'est ça qu'il faut, à quoi il faut revenir, réintroduire la vie politique, réintroduire les jeux politiciens. Ça embête tout le monde, les jeux politiciens. Et Robespierre était très bon dans ce domaine-là. Eh ben, il faut tout simplement refaire de l'histoire. Excusez-moi de le dire comme ça. Et puis, tout simplement revenir à tout ce qui embête. C'est certain que Robespierre a participé à accepter des violences et des violences injustes qui ont été faites, qu'il a couvert les sans-culottes pendant la guerre de Vendée. C'est une évidence. Il faut l'accepter. Comme il faut accepter son revirement. C'est ce genre de choses qu'il faut accepter de comprendre pour voir comment on fait de la politique et pas seulement en utilisant des discours et en les confrontant entre eux, discours contre discours, mais tout simplement en essayant de voir comment ils ont été incarnés. Là, on est vraiment dans l'incarnation. La politique, c'est l'incarnation. Et les hommes, ils sont compliqués et complexes, Robespierre comme les autres. Voilà. Et il n'est peut-être pas plus un monstre que tout le monde, sauf que de le rendre monstrueux nous permet d'éviter de perdre notre idée romantique de la Révolution et de croire qu'il suffit d'avoir des grands principes et des grands discours pour changer le monde. Alors là, très franchement, pour moi, c'est pas du tout.
Et là, il y a aussi cette dimension sacrificielle que vous décrivez de Robespierre, qui se décrit lui-même en potentiel sacrifié de la Révolution. Et cela, c'est aussi une vision romantique de la politique dans ses excès.
C'est vrai, mais je crois qu'à l'époque, les trois quarts des gens qui vont faire la révolution, entre guillemets, sont prêts à ce sacrifice. Quand on lit les dépositions, mais des petits paysans qui se soulèvent en juillet 1789 et qui disent « mais tant pis, j'y vais ». Et puis de voir l'élan des volontaires de 1791 qui savent parfaitement qu'ils risquent de mourir dans une bataille pour laquelle ils nous ont été mal préparés. Et puis je dirais aussi, quand on pense aux femmes qui montent à la guillotine tout simplement pour avoir participé à une messe clandestine, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Si le sacrifice n'est pas là, présent, dans toute cette société des années 1780 jusqu'aux années 1815, la Bérézina, l'acceptation de mourir en Russie pour l'empereur, si c'est pas le sacrifice qui mène le monde entier à ce moment-là, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là.
Merci beaucoup Jean-Clément Martin. Je rappelle que vous êtes auteur de Robespierre, la fabrication d'un monstre, paru chez Perrin, un livre dans lequel vous essayez justement de défaire cette figure de Robespierre de cette figure qui a été construite, selon vous, tout de suite au moment de la Révolution et de la mort de Robespierre, la figure du monstre. C'était Avoir raison avec Robespierre, dernier épisode consacré à Robespierre, incarnation du monstre. Merci à notre attaché d'émission Virginie Leduo, à la réalisation Laurence Malondin, à la technique Noé Chabanne et à la technique du côté de France Bleu Poitou qui accueillait dans ses studios Jean-Clément Martin, Johan Adam.